Radio Prague, les informations.
La compagnie CSA offre la meilleure qualité des services en Europe en classe économique. Le prix de Dresde remporté par la poétesse tchèque Viola Fischerova et l'écrivaine allemande Uliana Wolf. Le marathon de Prague a été remporté par un coureur du Qatar. La compagnie des lignes aériennes tchèques, CSA, propose à ses clients en classe économique les meilleurs services en Europe. Tel est le résultat d'une enquête réalisée par l'Association internationale des sociétés aériennes, IATA. Dans le cadre de l'enquête, on a interrogé d'avril à octobre 2005 12 000 passagers de 11 compagnies aériennes européennes. En ce qui concerne la qualité des services en business class, la CSA s'est placée troisième derrière les compagnies Malév et Austrian Airlines. Au Festival international Bardinal, la poétesse tchèque Viola Fischerová a obtenu le prix de la poésie lyrique de Dresde. Elle partage cette distinction avec la femme de lettres allemande Uliana Wolf. 1600 écrivains d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche et de République tchèque ont participé à ce concours. Le prix de la poésie lyrique de Dresde est doté d'une somme de 5000 euros. Jiří Frel, ancien conservateur du musée Getty de Los Angeles, s'est éteint aux États-Unis à l'âge de 82 ans. On estime que c'est à cet éminent spécialiste d'art grec et romain que le musée Getty doit la qualité de ses collections. Jiří Frel est né en 1923 en Tchécoslovaquie. Par la suite, il a étudié à la Sorbonne et émigré de Tchécoslovaquie en 1969. Sa brillante carrière aux États-Unis a été interrompue par des scandales fiscaux. Il a été inhumé ce jeudi au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Un bateau-mouche de la société EVD est entré en collision ce samedi sur la Vltava à Prague avec un pilier du pont Charles qui a perforé sa coque. Le bateau a commencé à prendre l'eau et à sombrer dans la Vltava. Au moment de l'accident, il y avait à bord quelque 20 passagers qui ont été évacués à temps et les pompiers ont sauvé ensuite le bateau du naufrage. C'est le coureur Hassan Moubarak Sami du Qatar qui a gagné ce dimanche le 12e marathon international organisé dans le centre de Prague. Côté femmes, la victoire a été remportée par Alina Ivanova de Russie. Météo, ce dimanche, fête des mers et de tous les bonifaces, selon le calendrier tchèque. Le ciel en Tchéquie est nuageux à couvert avec de la pluie par endroits. Les températures diurnes se situent entre 15 et 19 degrés. Lundi, le temps en Tchéquie sera nuageux à couvert avec des averses et les températures diurnes s'échelonneront de 15 à 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Bienvenue à l'écoute de Culture sans frontières qui est aujourd'hui dédiée à la littérature pour enfants, un des thèmes de la foire du livre de Prague, Svět knihy, qui a accueilli la semaine dernière pas moins de 25 000 visiteurs. La foire du livre a organisé une table ronde autour des livres de création pour enfants. Elle a réuni les représentants d'une petite maison d'édition tchèque, Baobab, ainsi que Françoise Ballanger, rédactrice en chef de la revue des livres pour enfants, et l'éditeur français Thierry Magnier. Pourquoi proposer aux enfants dès le tout petit âge des livres de création, c'est-à-dire de vrais travaux artistiques, Thierry Magnier?
Il y a 50 ans encore, un enfant se réveillait dans des draps blancs et prenait son bol de petit déjeuner. Aujourd'hui, il se réveille dans une couette Pokémon, avec un pyjama Petit Prince, avec les rideaux, double rideau Astérix, et il prend son bol dans un Tintin et il va manger des cornflakes dans lesquels il va y avoir une image qu'il doit collectionner, et il va mettre son manteau pour partir à l'école avec ici je ne sais quelle image, pour ensuite, dans la rue, voir toutes ces images et échanger avec ses amis des images. Ça veut dire qu'ils sont complètement, et en plus, en avalant le petit déjeuner, ils ont une image qui circule, qui est la télévision. Donc c'est complètement fou. On leur déverse des images sans leur donner une seule clé, sans leur donner le goût.
Donner ces clés, c'est justement la mission de la maison Thierry Magnier qui existe sur le marché du livre français et international depuis 1998. Professeur de littérature et de phytotechnie dans un lycée professionnel, puis libraire, journaliste et également auteur, Thierry Magnier aime dire qu'il est un petit monstre du marché français. Dans sa maison, ainsi que dans Actes Sud Junior, une autre maison d'édition de création qu'il dirige, il publie près de 150 titres à l'année. Des albums maternels, certains sont bilingues et offrent un même support de langue aux enfants sourds et entendants, des livres CD, des albums tout carton, ainsi que des romans pour adolescents et aussi des livres tout public. Car selon Thierry Magnier, un bon livre pour enfants est aussi un bon livre pour adultes. Mais l'inverse ne fonctionne pas toujours. Comment se positionne-t-il alors par rapport à sa concurrence ?
On commence à avoir un poids économique, mais enfin, il faut penser une chose, c'est que moi, un livre que je vends très bien, un album que je vends très bien, je vais le vendre, je me dis, quand je passe à 3000 exemplaires, je trouve que c'est très très bien. Dans les grandes maisons que j'appelle les monstres, 3000 exemplaires, ça les fait rire, c'est 10 000, 100 000, et là, c'est juteux, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, ça m'intéresse pas. En revanche, si c'est un bon livre que je fais moi et que je puisse le vendre à 10 000, 100 000 exemplaires, je serais ravi. Mais en général, malheureusement, le goût des lecteurs n'est pas forcément le nôtre. Donc, bon, j'ai un succès, c'est tout un monde qui est maintenant dans une dizaine de pays, qui a été vendu. Et en France, on approche les 60 000 exemplaires vendus. Donc, pourtant, c'est vraiment un vrai travail de création, c'est un vrai travail d'artiste. Et ben, voyez, on peut aussi, avec un travail d'artiste, arriver à faire des scores qui, économiquement, commencent à être intéressants et nous faire vivre, simplement.
Le grand succès de Thierry Magnier, Tout un monde, a donc été présenté sur le stand francophone de la Foire du Livre de Prague. C'est une sorte d'inventaire du monde à travers des techniques les plus diverses. Photographie, découpage, gravure, gouache, huile, images numériques.
Alors là, c'était le challenge, c'était de créer un nouvel imagier. Alors c'est très prétentieux de dire ça, hein, vous voyez, de dire « oui, allez, je suis un nouvel éditeur et moi, les imagiers, je vais en faire un nouveau ». Et c'est vrai que quand j'ai dit ça à Cathy Coupry et Antonin Louchard, qui sont les deux artistes contemporains qui ont travaillé avec moi, ils m'ont dit « c'est génial, on va le faire ». Mais on s'est retrouvés devant une table, comme ça se passe tout le temps, en général, hein, à bien manger et bien boire, et en délirant, en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ?». Et l'idée, c'était effectivement d'utiliser le maximum de techniques différentes, c'est-à-dire que dans ce bouquin, il y a 40 techniques différentes faites par eux deux. Il y a eu plus de 600 images faites par eux pour ce livre. C'est un véritable travail d'artiste. Et après, on a choisi. Et c'est tout d'un coup, en travaillant ça, en se disant, on ne mettra pas de mots. Je ne voulais pas qu'il y ait de mots, parce que pour moi, le mot cassait l'imaginaire de l'image pour l'enfant. C'est-à-dire que quand on voit une paire de chaussures et que c'est écrit chaussures en dessous, l'adulte va dire à l'enfant, tais-toi et lis chaussures. Vous voyez, le côté pédagogique toujours qui revient, mais qu'on les lâche un petit peu. Et dans cette paire de chaussures, ils peuvent dire des souliers, ils peuvent dire des grolles, ils peuvent dire c'est les chaussures qui courent vite. Ils peuvent inventer toutes les histoires s'il n'y a pas le mot. Donc je voulais ça. Mais comment grouper tout ce livre ? Eh bien, tout simplement, ça nous est arrivé. On a inventé quelque chose qui n'existait pas, qui est d'une simplicité remarquable. C'est un marabout, bout de ficelle, celle de cheval, mais avec des images. Donc les images se répondent les unes aux autres, d'un bout à l'autre, sur 350 pages, et de droite à gauche et de gauche à droite. Mais on a inventé ça sans le vouloir, c'est ça qui est fabuleux. Et là, on a travaillé pratiquement tous les jours, et là, on vient de sortir, là, tout récemment, un nouveau, avec eux deux aussi, qui s'appelle Tout un Louvre, là, qui sort, qui commence à avoir un très grand succès. J'ai mis ces deux lascars, là, ces deux artistes, je les ai mis dans le Louvre. On s'est enfermés là pendant 6 mois et ils ont travaillé, ils ont déconné avec les œuvres. C'est-à-dire qu'ils les ont appropriées et tout d'un coup on a désacralisé l'œuvre d'art. C'est-à-dire que pour l'enfant, et quand vous savez qu'un enfant, quand on le met coincé dans sa chaise pour regarder quelque chose, Il s'en fout que la Joconde, ce soit Léonard de Vinci. Il s'en fout qu'on n'ait pas le droit de toucher les fesses de la Vénus de Milo. Il s'en fout de tout ça, lui. Lui, il a envie de regarder cette vieille femme moche qu'est la Joconde et qui le suit quand il va à gauche, qu'il va à droite, il voit les yeux qui bougent. C'est ça qui est intéressant. Et si on permet enfin aux enfants d'approcher l'art comme ça, c'est-à-dire de s'apprivoiser, de se l'approprier, que ces choses deviennent du quotidien, eh bien, quand ils auront 15, 20 ans, ce seront des critiques d'art absolument fabuleux, parce qu'ils n'auront plus aucun complexe devant ça. Regardez, nous, notre génération, comment, dans un musée, combien on est sérieux, combien on prend 3 pas en arrière, on revient et on parle de 2-3 choses, et on essaye de trouver des références. Mais on se fait travailler la tête quelquefois pour rien. Et là, le tout un Louvre, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a voulu le faire. C'est-à-dire que va t'amuser dans un musée et joue avec tout ça.
Pourquoi vous avez un ange sur votre logo ?
Pourquoi j'ai un ange qui lit ? Ouais, c'est un petit ange qui lit. Alors, je suis pas du tout croyant, mais j'aime croire de temps en temps à des choses. Donc l'ange. Un ange, ça a pas d'âge. On sait pas. On n'a jamais su quel âge pouvait avoir un ange. Mes lecteurs, c'est la même chose. J'aime bien ne pas savoir quel âge ils ont. Un ange, on dit que ça n'a pas de sexe. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Mais j'aime savoir aussi que mes lecteurs soient des filles ou des garçons d'une façon libre. Et je suis tellement révolté en ce moment avec des gros éditeurs qui font des livres réservés aux filles ou des collections spéciales filles. Je trouve ça tellement retourné en arrière et d'empêcher en plus un garçon... S'il a envie de faire de la danse, parce que c'est un métier de fille, de lui empêcher. Je trouve que c'est dégueulasse. On devrait pas autoriser ça. Je suis pas censeur, mais là, je trouve ça trop dur. Et donc, moi, j'aime l'idée. Voilà. Mon logo, c'est un petit ange, parce qu'un ange qui lit, il y a bien la vache qui rit, hein. Mais un ange qui lit, eh bien, c'est un ange. Voilà. On sait pas qui c'est et il fait ce qu'il veut avec mes livres. C'est son droit. Voilà. Le droit du lecteur est le plus important.
Jadis réputée pour la qualité de sa littérature pour enfants, la République tchèque est aujourd'hui, côté création pour enfants, quelque peu figée. Si, sous le communisme, des illustrateurs éminents se réfugiaient dans ce domaine, où ils trouvaient un espace de liberté et d'expression assez important, il existe à présent peu d'éditeurs qui osent sortir des schémas habituels, représentés ici, outre la production commerciale reprise de l'étranger, par des contes de fées traditionnels et les grands classiques de la littérature tchèque pour la jeunesse. Un de ces oiseaux rares niche à Bechyně, dans le sud du pays, et s'appelle Baobab. Cette jeune maison d'édition, fondée par l'illustrateur Juraj Horvat et son épouse Teresa, publie chaque année environ 4 livres d'auteurs pour les tout-petits et concocte des projets de collaboration avec Thierry Magnier. Teresa Horvatova compare les marchés du livre pour enfants tchèques et français.
Le marché tchèque est très petit, alors qu'il y a très peu de gens, il y a peu de grandes villes. En tant que la France est grande, il y a Paris quand même, il y a beaucoup de gens. Et en plus, il y a la culture qui est toujours stable en France quand même. Il y a les familles bourgeoises, les familles, je ne sais pas, de la petite bourgeoisie peut-être, qui sont habituées à acheter des livres pour enfants. Tandis qu'ici, c'est un peu différent parce que les gens ne sont pas habitués à acheter des livres comme ça pour élever l'enfant. L'enfant ne vit pas avec le livre ici. En France, c'est normal que les enfants ont les livres dès qu'ils sont très petits. Ils ont les livres sans mots et tout ça. Ici, la culture est très différente. On est plutôt habitué à lire, à lire les contes avant de s'endormir. Mais c'est pas du tout la même chose. Le marché français vit une époque très forte en création depuis une vingtaine d'années.
Est-ce que les livres français de création sont suffisamment traduits en tchèque ? Est-ce qu'il y a de l'intérêt ?
Pas du tout. Ici, il n'existe presque pas les éditeurs qui feraient ça. Donc, il y a seulement 2 éditeurs des livres un peu différents. C'est Meander c'est Baobab, c'est notre maison d'édition. Puis il y a aussi Brio, ce sont les Français qui le font, mais ils ne font pas les choses de création. C'est complètement différent. Donc je pense que ça va venir lentement, mais c'est pas encore prêt.
Un autre problème qui se pose en République tchèque, le livre de création peu présent dans les écoles et négligé par les distributeurs, a du mal à arriver à son lecteur. Comment le promouvoir ? Françoise Ballanger, rédactrice en chef de la revue des livres pour enfants.
J'ai pas du tout de conseils ou de choses comme ça à donner, mais il me semble que c'est important qu'il y ait l'idée qui s'installe que le livre pour les enfants, c'est vraiment précieux. Et si les gens prennent l'habitude de lire des livres aux enfants, d'être exigeants en estimant que ce n'est pas le livre qui a le plus de succès ou le plus commercial qui est forcément le plus intéressant, mais qu'ils décident de regarder différents livres avant de choisir. Du coup, il y a une espèce de culture du livre pour enfants qui s'installe, qui se développe. Et si ça s'appuie sur un réseau de professionnels, de bibliothécaires ou de profs, d'enseignants, c'est précieux, c'est important.
On dit souvent que les enfants aujourd'hui lisent moins qu'il y a 20 ans, 30 ans, que c'est dû à la télé, tout ça. Pensez-vous que c'est un cliché qu'on répète ou que c'est vrai ?
Alors, je pense qu'en effet, l'univers culturel des enfants s'est beaucoup élargi, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de propositions. Mais, alors, il y a eu de très nombreuses études, je parle de la France, je ne sais pas ailleurs, je ne peux pas me permettre de savoir. C'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est un petit peu une peur, parce qu'on se dit, il y a trop de choses qui sollicitent les enfants, ils vont perdre la lecture. Mais la réalité des chiffres, quand on fait des enquêtes, prouve le contraire. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui lisent beaucoup plus, alors que, ces statistiques lisent globalement plus que les générations précédentes. Dans les générations précédentes, peut-être dans certains milieux, on lisait plus. Mais aujourd'hui, tout s'est élargi à différents milieux. Et si on regarde, il y a 50 ans, il y avait peu de gens. Une petite partie lisait beaucoup, mais tout le monde ne lisait pas. Alors qu'aujourd'hui, je crois que il y a beaucoup plus de gens qui lisent. Et le livre est présent un peu partout.
En effet, avant de quitter le palais industriel au parc des expositions et cette foire du livre, je passe à côté d'une bande d'écoliers. J'aborde deux filles qui sont de ferventes lectrices de romans humoristiques du tchèque Zdeněk Jirotka et de romans pour adolescentes. Je leur demande quel est le livre le plus sollicité dans leur classe et leur réponse, je la connais d'avance.
C'est Harry Potter.
C'est donc avec Harry Potter que se termine cette culture sans frontières. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc.
Chaque été, 6 universités de République tchèque organisent des stages d'initiation à la langue tchèque destinés en priorité aux étudiants du programme Erasmus. Dans ce cadre, j'ai passé 3 semaines à Ostrava au cours de l'été 2005.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pámbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude.
À 350 km à l'est de Prague, proche des frontières polonaises et slovaques, entre Moravie et Silésie, la ville d'Ostrava souffre d'une image très négative. Sa visite a été carrément déconseillée par certains guides touristiques français, tandis qu'une partie des Tchèques, notamment des Pragois, la considère comme une ville triste, sale et grise. Cette réputation est en partie vraie. Le taux de chômage est plus élevé que la moyenne, 15%. La pollution persistante provoque de nombreuses maladies et est la cause d'une espérance de vie plus courte qu'à Prague. La ville a été enlaidie par la construction des usines depuis le XIXe siècle et la négligence architecturale sous la période communiste. Pourtant, si Ostrava ne répond pas aux critères habituels d'une destination touristique, il faut dépasser cette première impression pour découvrir une ville authentique et rencontrer des habitants qui en sont fiers malgré l'histoire difficile.
Ostravo, Ostravo, kde jsem oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, ptáci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osude.
Ostrava est située sur les vieilles routes du commerce, dès la préhistoire. Ainsi, des traces de peuplement nomade, remontant à plus de 20 000 ans avant notre ère, ont été retrouvées dans la région proche, comme la statue de la Vénus de Landeck. C'est au XIIIe siècle qu'Ostrava obtient le statut de ville. L'église Saint-Venceslas, qu'on peut encore visiter, date de cette période et reste aujourd'hui le plus ancien monument de la ville. Ostrava va être encore pour longtemps dans l'ombre d'Olomouc, centre politique et universitaire. Au XIXe, Ostrava prend le virage qui va façonner son identité actuelle. La ville devient un pivot économique prépondérant de l'Empire d'Autriche, puis d'Autriche-Hongrie, pendant la Révolution industrielle. Un gisement de houille est mis au jour en 1763. Les premières usines sidérurgiques entrent en activité en 1828. Le chemin de fer arrive moins de 20 ans plus tard. Dans la seconde moitié du XIXe, Ostrava prend les allures d'une grande ville, avec la construction d'édifices publics et religieux. Avec la montée des préoccupations sociales, se développe un habitat ouvrier et des activités spécifiques pour cette population, telles que centres sociaux et culturels ou théâtres. La ville est un lieu important de production pour l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'est après 1945 qu'Ostrava connaît son plus grand essor, toujours en lien avec l'industrie, se traduisant par un gigantesque afflux de population. Cela fait aujourd'hui d'Ostrava la troisième ville de République tchèque, avec 330 000 habitants derrière Prague et Brno.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězdo nad hlavou. Pánbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, zpečetěný osude.
Comme le résume l'Office de tourisme, après 1989, peu de villes en République tchèque connaissent autant de transformations qu'Ostrava. Ce ne sont pas seulement les conditions de vie de la population qui changent. Un certain nombre d'établissements industriels sont définitivement fermés. L'extraction du charbon dans la localité d'Ostrava est arrêtée le 30 juin 1994 et toutes les mines souterraines conservées désormais en tant que patrimoine de la ville. Des milliers de mineurs et métallurgistes se sont reconvertis et font maintenant valoir leurs compétences dans d'autres branches d'activité. Ainsi, Ostrava tourne une page et cherche un nouvel élan. Mais elle n'oublie pas ce qui a fait sa richesse et ses malheurs. Ses mines et ses usines, dignes de films de science-fiction, sont maintenant mises en valeur au travers de musées ou encore d'éclairages nocturnes. Ostrava se reconvertit dans le domaine des services ou dans des industries plus prometteuses, telles que le prouve la probable prochaine installation du constructeur automobile sud-coréen Hyundai à Nosovice. Ostrava affirme désormais clairement ses particularités, avec fierté. Elle a plusieurs symboles qui lui sont propres. Le chanteur Jaromir Nohavica, originaire de la ville, en est un ambassadeur de qualité. C'est sa chanson Ostravo qui nous a d'ailleurs accompagnés au long du reportage. Le club de football, le Banik, bénéficie d'un large soutien populaire et paraît-il des meilleurs supporters du pays. Autre preuve du dynamisme retrouvé, le succès de Stodonli, une rue du centre-ville qui compte de nombreux bars et qui constitue un vrai phénomène de mode auprès des jeunes. Ostrava peut aussi être le point de départ pour des randonnées dans les montagnes voisines des Beskides en été ou pour des journées de ski en hiver. Enfin, on peut signaler l'exposition qui se tient en ce moment au Rudolfinum à Prague, appelée Industria. Elle se veut un témoignage du passé industriel de l'Europe
et de ses usines maintenant à l'abandon. Nul doute qu'Ostrava y figure en bonne place.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal bym jo i pěšči, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.